Alors, nous accueillons ce soir M. Nicolas Fayette, qui a fait une thèse sur la réception de Charles Péguy par Balthazar. Il s'était soutenu en 2012 et il est actuellement professeur de collège où était avant Agathe à Montagnoli. Et il va nous parler de l'espérance chez Péguy.
Très bien. Est-ce que je veux juste demander que chacun dise son prénom au moins pour avoir un petit peu une idée de personnes qui sont présentes. C'est possible de vous demander ça
Oui.
Ouais.
Merci.
Bien, merci.
Eric.
Charlotte.
Bérénice.
Vincent.
Claire.
Marc.
Ah, Claire, c'est la tarte
ouais.
Non.
Non, c'est Charlotte, on m'a trompé, pardon.
Ah, c'est Charlotte, la tarte. Bon. On a très, très bonne la tarte. Hein. Merci.
Tristan,
Domitil,
Edwin,
Alexandre,
Baptiste,
Claire-Marie,
Amandine,
Jérémy,
Eleonore,
Inès,
Marguerite, Angelina, Fabiola et Mathilde.
Très bien. Alors, je suis venu avec un ami préparationnaire, donc Émeric, voilà, qui est ici aussi. Non, mais je suis très honoré de parler, d'avoir été invité ici avec vous à parler de Charles Péguy. Péguy était normalien comme vous, mais la différence de, je pense, de beaucoup d'entre vous, il n'était pas agrégé, voilà, il n'a pas réussi le concours. Péguy aussi était pas loin d'ici, sa boutique au numéro 8, peut-être vous la connaissez, hein, la boutique, mais peut-être ce que vous connaissez pas, c'est que plus haut dans la rue, il y a la première librairie de Charles Péguy, là où il y a le Grec qui fait le coin entre la Sorbonne. Voilà. Enfin, ils font des crêpes excellentes. Enfin, voilà. Donc Péguy avait eu là-bas sa première librairie au temps de l'affaire Dreyfus. Donc on est vraiment dans un quartier très péguiste. Alors ce que j'ai pensé pour aujourd'hui, pour ce soir, c'est me rattacher à la question de l'espérance chez Balthazar, vous parler un petit peu de la vie de Péguy, ensuite lire des textes qu'on lise ensemble, et un peu se laisser imprégner par la langue de Péguy, et laisser de la place à vos commentaires. Voilà, on va lire, moi je vais introduire un peu, et voilà, si vous avez des choses à dire, que ce soit un petit peu voilà, interactif, je vous propose cette méthode. Alors, peut-être d'abord relié à Balthazar. Balthazar, 1905-1988. Balthazar n'a pas connu Charles Péguy. D'accord, Charles Péguy, 1873-1914. Balthazar, auteur suisse, on parle français chez lui, il connaît beaucoup la langue française. Balthazar, jésuite, étudie à Lyon dans les années 30 avec le père de Lubac. Et là, il découvre Péguy, Blois, Bernanos, Claudel. Et dans sa vie, Balthazar parlera surtout à trois moments de Charles Péguy. Un premier moment, en 1953, il va publier une anthologie dont j'ai le livre. Il y a mon sac à dos et à côté du casque. Ouais. Donc il fait une anthologie qui s'appelle « Nous sommes tous à la frontière ». Je vous la montre, elle coûte 12 euros. Wir stehen alle an der Front, en allemand, nous sommes tous au front. Et c'est une anthologie très en lien avec le thème d'aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est l'édition française, il y a 30 textes, c'est magnifique, des textes en prose de Péguy. Balthazar, donc, en cette époque, il a créé une collection qui s'appelle « Être chrétien aujourd'hui ». Le premier livre qu'il écrit, ça s'appelle « Raser les bastions ». Parce qu'on est dans une église voilà, qui est comme des bastions, il faut raser les bastions. Et puis aussi, c'est le monde moderne qui rase les bastions. Et l'un des premiers livres, c'est Charles Péguy, « Nous sommes tous à la frontière ». C'est-à-dire qu'une fois qu'il n'y a plus de bastions, on est à la frontière, on est sur le lieu de guerre. Ça sera un texte qu'on lira. Donc, c'est la situation du chrétien aujourd'hui. Nous n'avons plus les bastions, nous sommes au milieu du monde. La guerre est partout. D'ailleurs, la guerre est partout. Ça, c'est le premier texte des années 50 pour décrire la situation dans le monde moderne du chrétien. Ensuite, dans les années 60, Balthazar commence sa trilogie, dont vous avez sans doute entendu parler, en trois parties. La gloire et la croix, sur la beauté. Ensuite, la dramatique divine, sur l'action, et puis la théologique. Et dans la première partie, sur la beauté, il consacre 100 pages à Charles Péguy. Pour dire quoi ? Pour dire que Péguy a vu quelque chose de la beauté de Dieu comme personne avant lui. Voilà. Il nous dit des choses sur la beauté de Dieu. Et pour Balthazar, la beauté est le point d'entrée. C'est ce qui nous attire, souvent c'est ce qui est beau. Hein, c'est ce qui est beau. Donc Péguy nous dit des choses de Dieu qu'on n'a jamais entendues avant lui. Et quelques années plus tard, dans la dramatique divine, il va consacrer une dizaine de pages au porche du mystère de la deuxième vertu, qui est cette œuvre consacrée à l'espérance, dans laquelle Balthazar voit une chose incroyable chez Péguy, qui est la chose suivante. En général, quand on parle de l'espérance, on dit nous, est-ce qu'on espère, on n'espère pas, la foi, l'espérance, la charité. Mais là, il dit, mais en fait, l'espérance, c'est d'abord Dieu qui espère. Donc il y a comme ce renversement des vertus, de même qu'on dit, voilà, Dieu est amour, ben, Dieu est espérance aussi, Dieu est espérance. Et c'est dans le porche qu'il y a ce retournement qui change beaucoup de choses. Il y aura un texte tout à l'heure qui présente ce retournement. Et troisième rapport de Balthazar à Péguy, c'est le porche, le texte lui-même, que Balthazar a traduit deux fois. Une fois en 1943, durant la guerre, et une deuxième fois en 1980. Vous voyez comment Péguy est une personne très présente pour Balthazar sur la question de l'espérance. Alors, Péguy lui-même. Péguy naît en 1873, le 7 janvier, le lendemain du 6 janvier, qui est la fête des rois, jour de la naissance de Jeanne d'Arc. Il naît à Orléans, en plein milieu joannique. Il naît quelques jours après la petite Thérèse, qui est née le 3 janvier. Et mystérieusement, ils ont tous les deux une mission en lien avec l'enfance, avec la paternité de Dieu. Oui, ils naissent dans la même semaine. Il étudie à Orléans, sa mère est rempailleuse de chaises, vous connaissez l'histoire. Il a vu toute son enfance rempailler des chaises du même cœur et de la même main que ce même peuple avait taillé ses cathédrales. Il va à l'école, il est très bon à l'école, sauf qu'il n'a pas assez d'argent, donc on le met au collège, disons, pour enfants pauvres. Comme il est bon en latin, on le met au lycée, enfin, on le met au collège quand c'est de la mère au lycée. Il étudie très bien, il arrive à Normale Sup, voilà. Et là, Normale Sup, il fait partie d'un groupe qui s'appelle des Turmes. Je ne sais pas si ça existe encore, ça, des Turmes, ça existe encore.
Ouais. Mais elles sont individuelles, alors qu'à l'époque, elles étaient collectives. Il n'y avait plus un groupe.
Enfin, d'accord.
C'est des chambres. C'est que des... Il n'y a plus de couture. Là.
D'accord, donc vous avez... Donc lui, il avait une turme qui s'appelait Utopie. Ah, Utopie, c'est le nom. Et là, il développe une idée de la fraternité universelle. On lira aussi quelque chose en lien avec ça. À cette époque, il fait des services avec les pauvres, mais c'est aussi le moment de l'affaire Dreyfus. Il voit comment la bourgeoisie, comment l'Église prennent une position qui pour lui n'est pas la bonne, n'est pas du côté de Dreyfus. Il voit aussi les questions ouvrières, comment toutes les masses ouvrières sont abandonnées. Et là, il décide de quitter l'Église pour aller dans les mouvements socialistes où il a l'impression que là, il y a un idéal. Là, vraiment, on cherche à aimer, là, on cherche à faire quelque chose. On ne se contente pas dans la résignation. Et Balthazar fait très attention au mot résignation. Les chrétiens, c'est gens résignés. Ils sont résignés à ce que la société soit comme ça, ils se sont résignés à l'enfer, à ce qu'il y ait des damnés, ils se sont résignés dans plein de choses. Et là, il a vu chez les socialistes des gens, enfin chez les communistes, enfin, tout ce des gens qui n'étaient pas résignés, voilà, qui brûlaient, tout le pays, il va là-bas. Il se marie, il épouse la sœur de son ami de la Turme Utopie, son ami qui d'ailleurs entre-temps est mort, donc il épouse la sœur de son ami, c'est une sorte de fidélité. C'est une famille républicaine très anticléricale. L'argent de la femme va à la fondation de la revue, le cahier de la quinzaine, parce qu'entre-temps, Péguy a échoué à l'agrégation. Il ne peut pas être prof, il fonde cette revue. Il va là. Sauf que, comme il a ses caractériels, il est jeté dehors par ses compagnons de la revue. Il va ailleurs, et finalement, il se retrouve un peu plus bas, au 8. Ils font cette revue qui s'appelle « Les cahiers de la quinzaine ». Et l'idée, c'est que tous les 15 jours, on va donner des nouvelles aux gens qui sont en province sur Dreyfus et le dreyfusisme. Comment ça se passe ? Donc d'abord, c'est tous les 15 jours. Il écrit, puis il demande à des gens d'écrire. Romain Rolland écrit des romans. Donc il y a pas mal de choses. Il y a de la littérature, il y a de la poésie, il y a des essais, il y a des publications de documents. On commente l'actualité aussi. Il y a des cahiers où il cite les débats à l'Assemblée, et puis commente. Bon, il y a plein de choses. Au fil des années, il se rend compte que le socialisme pour lequel il avait tout donné eh bien, est aussi corrompu que tout le reste. Et mystérieusement, il revient à la foi chrétienne. Il revient mystérieusement. Un jour, un de ses amis de prépa, Joseph Lott, vient le voir. Peggy est dans sa chambre, il est alité. Il lui raconte des... Et puis à un moment, Peggy se relève, il s'appuie sur son coude et il lui dit « Je ne t'ai pas tout dit. » Il lui dit « J'ai retrouvé... ma foi. » Il ne dit pas « j'ai retrouvé la foi », mais « j'ai retrouvé ma foi ». Donc il a retrouvé la foi de son enfance, il a retrouvé ses racines, on ne sait pas comment. Et son ami Joseph Lott lui dit « on en est tous au même point ». Alors cet ami, il avait pensé absolument pas à la foi, mais quand Peggy lui a parlé de la foi, il lui a dit « bah, écoute, moi aussi ». Là, les deux, ils pleurent, voilà, il dit « c'est incroyable bon. ». Joseph Lott rentre chez lui, sauf que Charles Peggy, il a Charlotte, sa femme, qui il a la belle-mère aussi chez lui, il a le beau-frère qui n'a pas de travail, il y a tout ça, l'argent, elle est dans la revue, et c'est très compliqué de parler de la foi à la maison, c'est très très compliqué. 1908-1910, il publie Le mystère de la charité de Jeanne d'Arc, qui est un peu le texte dans lequel il manifeste un peu une sorte de retour à la foi chrétienne. Claudel découvre ce texte en étant loin, mais il dit « mais enfin, c'est qui ce Peggy ? Il était socialiste. » Et là, quand il revient à la foi, commencent les difficultés. Il dit dans un de ses textes « le christianisme n'apporte pas des preuves, mais des épreuves. » Et lui, c'est exactement ce qu'il a vécu. Quand il retrouve la foi, ça devient très très compliqué. Pourquoi ? Est-ce que la famille est contre ? Sa femme est contre ? Ce qu'il devrait faire, c'est se marier religieusement, faire baptiser des enfants, mais la femme ne veut pas, la belle-mère ne veut pas. Les catholiques le voient avec suspicion, disent « mais enfin, c'est quoi un catholique qui n'est pas marié, qui ne participe pas au sacrement, qui ne va pas à la messe, c'est quoi ?» Les lecteurs de la revue voient ce monsieur qui avait parlé de Dreyfus et tout ça, et que maintenant, commence à écrire des mystères sur Jeanne d'Arc, sur tout ça. Donc, mais qu'est-ce qui se passe ? Donc, il y a des gens qui se désabonnent. Proust était abonné, mais comme Peggy se répète tout le temps, elle a dit ça suffit, c'est ennuyeux. Voilà. Donc ça devient très très compliqué. Et là on arrive en 1911. Peggy en plus entre-temps est tombé amoureux d'une de ses collaboratrices. Il y en a qui disent enfin laisse ta femme, vu que de toute façon elle ne veut pas te marier, donc épouse-la, laisse-la, tu n'es même pas obligé de rester avec elle. Ce que disent un peu les maritains, ils lui disent ça, enfin t'es pas obligé, t'es pas marié, laisse-la. Lui, il est amoureux de cet autre, en même temps, il sent que voilà, il doit rester fidèle. Donc voilà. Donc il y a toute cette immensité de problèmes. Là, on arrive 1911, et c'est là qu'il y a quand même un jaillissement de réflexion sur l'espérance à ce moment-là. Au moment où il y a une sorte de trou, enfin une trou. Professionnel parce que la revue marche pas bien, familial parce que ça marche, religieux aussi parce qu'il n'est pas accueilli dans la communauté chrétienne. Et c'est là que surgit la grande réflexion sur l'espérance. Donc je vous propose, on va commencer par le texte le plus connu. Bon, tout le monde le connaît, mais pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, La petite fille espérance. Est-ce que quelqu'un veut lire cette page ? Oui, allez-y.
La petite fille Espérance. La petite Espérance s'avance entre ses deux grandes sœurs et on ne prend pas seulement garde à elle. Sur le chemin du salut, sur le chemin charnel, sur le chemin raboteux du salut, sur la route interminable, sur la route entre ses deux sœurs, la petite Espérance s'avance entre ses deux grandes sœurs, celle qui est mariée et celle qui est mère. Et l'on a d'attention, le peuple chrétien n'a d'attention que pour les deux grandes sœurs, la première et la dernière, qui vont au plus pressé, au temps présent, à l'instant momentané qui passe. Le peuple chrétien ne voit que les deux grandes sœurs, n'a de regard que pour les deux grandes sœurs. celle qui est à droite et celle qui est à gauche. Il ne voit quasiment pas celle qui est au milieu, la petite, celle qui va encore à l'école et qui marche, perdue dans les jupes de ses sœurs. Et il croit volontiers que ce sont les deux grandes qui traînent la petite par la main, au milieu, entre les deux, pour lui faire ce chemin raboteux du salut. Les aveugles, qui ne voient pas au contraire, que c'est elle au milieu qui entraîne ses grandes sœurs, et que sans elle, elle ne serait rien, que deux femmes déjà âgées, deux femmes d'un certain âge, fripées par la vie. C'est elle, cette petite, qui entraîne tout.
Très bien. Nous sommes dans le porche du mystère de la deuxième vertu. Nous sommes au tout début du livre, tout début. Il y a cette espérance qui est dite petite, non ? Une petite fille. Et sans doute, Peggy s'est inspirée de sa propre fille. Il avait des enfants, Marcel, Germaine et Pierre. Et la petite Germaine, on dit, enfin, voyons cette petite fille, c'est elle qui lui a inspiré cette image. Donc l'espérance, elle est petite. Voilà, il faut retenir ça, elle est petite. On ne la voit pas parce qu'elle est entre les deux grandes sœurs, la foi et la charité. On croit que ce sont elles qui conduisent la petite, mais en fait c'est la petite qui conduit tout. Il a cette belle image à la fin. Que serait la foi et la charité sans l'espérance ? Ce seraient deux femmes déjà âgées, deux femmes d'un certain âge, fripées par la vie. C'est elle, cette petite, qui entraîne tout. Pourquoi ? Parce que la charité sans espérance, ben on s'épuise à la fin. Hein, on n'en peut plus. La foi sans l'espérance, peut-être elle risque de devenir uniquement des dogmes. Elle perd sa vitalité, elle se cristallise, elle devient dogmatique, elle devient un peu idéologique. Vous voyez ? Et la petite espérance, c'est celle qui fait avancer, c'est celle qui donne vie et qui fait monter, vous voyez, qui fait monter le chemin raboteux du salut. Or, quand Peggy écrit ça, il est dans une situation de profond désespoir. Et c'est ce qu'il dit dans le texte suivant, qui est un témoignage de cette époque même, où il dit comment penser l'espérance, finalement c'est cela qui lui a donné l'espérance. Alors, si quelqu'un veut lire le témoignage, allez.
Jusqu'où ?
C'est derrière, c'est pas très long. Okay.
Le témoignage de Peggy. Notre-Dame m'a sauvé du désespoir. C'était le plus grand danger. Les gens comme nous ont toujours autant de foi et autant de charité qu'il faut. Mais c'est l'espoir qui peut manquer. J'en suis sorti en écrivant mon porche. Figure-toi que pendant 18 mois, je n'ai pu dire mon Notre Père, que votre volonté soit faite. Je ne pouvais pas dire ça. Je ne pouvais pas. Comprends-tu cela ? Je ne pouvais pas prier Dieu, parce que je ne pouvais pas accepter sa volonté. C'est effrayant. Il ne s'agit pas de dire des prières à la mie de pain. Il s'agit de dire vraiment ce que l'on dit. Je ne pouvais dire vraiment que votre volonté soit faite. Alors, je priais Marie. Les prières à Marie sont des prières de réserve.
Eh bien, voyez, il dit... des gens comme nous ont toujours autant de foi et autant de charité qu'il faut, mais c'est l'espoir qui peut manquer. Oui. Donc, il met le doigt sur quelque chose, je pense, qui est assez inhabituel. On ne parle pas beaucoup de l'espérance, on parle beaucoup de la foi, on parle de la charité. Mais ce qui peut manquer, c'est l'espoir, c'est l'espérance. Pendant 18 mois, il n'a pas pu prier le Notre Père, il n'a pas pu dire que ta volonté soit faite, il n'a pas pu accepter sa situation, tout ce que j'ai dit, toutes les difficultés qu'il avait. Alors il a prié Marie, et ça on y reviendra, vous savez qu'il est allé à Chartres, en 1912, il allait présenter tout ce qu'il avait dans le cœur, il a écrit les tapisseries, il décrit son pèlerinage dans la présentation à la Beauce, et pour lui ce pèlerinage a été une expérience de foi, véritable renouvellement. En allant vers Chartres, il voit un moment la flèche et il dit « Toutes mes impuretés sont tombées d'un coup ». Il entre dans la cathédrale et il dit « Voici le lieu du monde où l'âme s'ouvre toute. Voilà, voici le lieu du monde où tout devient facile. Voici le lieu du monde où tout devient enfant. Pourquoi ? Parce que Chartres, c'est le lieu où il y a le voile de la Vierge, le voile de l'Annonciation. La Vierge a dit oui à l'Annonciation. Pour Peggy, cette cathédrale, c'est comme le voile lui-même de la Vierge, au sein duquel, grâce à Marie, on arrive à dire oui. Vous voyez, on a tout seul, on n'arrive pas à dire le Notre Père, que votre volonté soit faite, on n'arrive pas à le dire. Mais dans le voile de Marie, on est comme pris dans le oui que dit Marie, comme elle nous embrasse. Vous avez peut-être vu ces images au Moyen-Âge où il y a la Vierge et puis un grand manteau et tous les gens qui sont dedans. Il y a le roi, il y a tout le monde. Ma Péris, elle l'a vécu. Il n'arrivait pas à prier le Notre Père. Il était désespéré, oui, ne pas réussir à dire que ta volonté soit faite, c'est le désespoir. Et là, Marie a été là. Mais, donc, Pélie nous ouvrira un chemin à l'espoir à travers Marie, on y reviendra après. Mais il nous ouvre aussi un chemin dans l'espoir pour voir le monde d'aujourd'hui. Et je commencerai un premier point, l'espérance chez Pélie, c'est comment voir positivement le monde dans lequel on est, et un monde déchristianisé. Qu'y a-t-il de positif dans le fait que, comme dit Peggy, une vague d'incrédulité ait recouvert le pays qui était assez chrétien? Comment voir en cela quelque chose de positif et quelque chose de beau? Qu'est-ce qui fait que notre situation aujourd'hui soit peut-être aux yeux de Dieu encore plus belle que ce qui a été avant? Vous avez une réponse?
On pourrait dire que par exemple c'est la fin un peu du conformisme et de l'humanisme paroissial où tout le monde va à la messe, ouais. Mais qu'on ait la foi ou pas, en fait on y va. Donc, de ce point de vue-là, ça rend peut-être l'assistance à la messe dominicale plus volontaire que si on le fait par le passé.
Oui, tout à fait. Ben, ça va justement dans ce sens-là. Donc moi je vous propose, on va lire le texte. Aujourd'hui, tout chrétien est un soldat. Aujourd'hui, tout chrétien est un soldat. Bon, le texte était continu. Bon, ce Peggy, enfin, les paragraphes chez lui, c'est une notion assez analogique. Donc voilà, j'ai fait des paragraphes pour faciliter un petit peu la lecture. Alors, quatre personnes, qui premier paragraphe. Oui, premier, deuxième, troisième. Oui, quatrième. Allez, quatrième.
Miles Christi, tout chrétien est aujourd'hui un soldat, le soldat du Christ. Il n'y a plus de chrétiens tranquilles. Ces croisades que nos pères allaient chercher jusque sur les terres des infidèles, non solum in terras infidelum, sed ut ita dicam, in terras ipsas infidees, ce sont elles aujourd'hui qui nous ont rejoints, au contraire. Ce sont elles à présent qui nous ont rejoints, et nous les avons à domicile. Nos fidélités sont des citadelles. Ces croisades qui transportaient des peuples, qui transportaient un continent sur un continent, qui jetaient des continents les uns sur les autres, elles se sont transportées vers nous, elles ont reflué chez nous, elles sont revenues, jusque dans nos maisons, comme un flot, sous la forme d'un flot d'incrédulité, elles ont reflué jusqu'à nous. Nous n'allons plus porter le combat chez les infidèles, ce sont les infidèles épars, les infidèles communs, diffus ou précis, informes et formels, informes ou formels, généralement répandus, les infidèles de droit commun, et encore plus, ce sont les infidélités qui nous ont rapporté le combat chez nous. Le moindre de nous est un soldat. Le moindre de nous est littéralement un croisé.
Toutes nos maisons sont des forteresses in periculo maris, au péril de la mer. La guerre sainte est partout. Elle est toujours. C'est pour cela qu'elle n'a plus besoin d'être prêchée jamais. Je veux dire en un point déterminé. Nous sommes tous des îlots battus d'une incessante tempête, et nos maisons sont toutes des forteresses dans la mer.
Qu'est-ce à dire, sinon que les vertus qui alors n'étaient requises que d'une certaine fraction de la chrétienté aujourd'hui sont requises de la chrétienté tout entière. Une guerre, des vertus qui étaient volontaires, puisqu'elles faisaient l'objet de la matière d'un vœu, aujourd'hui sont requises, exigées. Impérieusement exigé, sans même, avant même que nous n'ayons à nous en occuper, sans que nous soyons consultés, sans qu'on nous donne, sans que nous ayons à donner notre avis. C'est le cas de le dire. Tout le monde est soldat, malgré son consentement. Quelle preuve de confiance dans les troupes. C'est littéralement un service militaire obligatoire. Et il est extrêmement remarquable que les sociétés civiles ont exactement suivi la même loi, la loi de chrétienté. C'est une levée en masse.
Ce qui était du domaine du vœu et par conséquent laissé à la liberté de chacun est devenu la loi commune. On a tellement compté sur nous où les autres étaient libres, nous sommes forcés, contraints. Ce qui aux autres était offert, à nous est imposé. Nos pères avaient besoin de se croiser eux-mêmes et de se transporter pour faire la croisade. Nous, Dieu nous a croisés lui-même. Quelle preuve de confiance pour une croisade incessante sur place. Les plus faibles femmes, les enfants au berceau, sont déjà des assiégés. Nous sommes tous aujourd'hui placés sur la brèche. Nous sommes tous à la frontière. La frontière est partout. La guerre est partout.
Alors, comment parler ? Quelqu'un, une deuxième personne ? Oui, vas-y.
Où M. Lebet a vu un affaissement, l'histoire et ensemble la foi ne peuvent voir qu'une exaltation. Rien n'est aussi beau qu'une fidélité dans l'épreuve. Rien n'est aussi beau que le courage dans la solitude. Rien n'est aussi beau que cette sorte d'éternité temporelle. Rien n'est aussi beau, rien n'est aussi grand que celui à qui on confie le poste de solitude.
Vous voyez, il n'y a plus de chrétiens tranquilles. Ouais. Donc il n'y a plus besoin d'aller de l'autre côté de la mer pour la croisade, mais tout vient à nous. Voilà, on est comme tout ce qu'on reçoit nous oblige, et c'est un peu dans le sens que vous dites, on est obligé d'être des vrais chrétiens. Soit on se laisse embarquer, soit on devient des vrais chrétiens. Le moindre de nous est un soldat, le moindre de nous est littéralement un croisé. Il emploie aussi l'image des îlots battus. Peut-être vous avez lu ce livre de Jérôme Fourquet sur l'archipel. Là, c'est un peu cette même image. Chaque chrétien est un peu un îlot. Il y a cette mer d'incrédulité. On est parfois séparés les uns des autres. On ne peut pas toujours se réunir. Et on doit résister aux îlots. Et ce qui est vraiment une grande espérance pour l'Église, et pour Balthazar, c'était vraiment une grande espérance, c'est que maintenant, l'Église ne peut plus compter seulement sur le clergé, sur les religieux, sur les moines, sur les... voilà. Mais maintenant, tout le monde est obligé d'être pleinement chrétien. Alors, depuis toujours, on disait que chaque chrétien est pleinement l'Église. Ça c'est depuis toujours, la théologie l'a dit. Mais le temps moderne a obligé, nous oblige à ce que ça devienne réalité. Vous voyez ? Les vœux, il y en avait avant qui faisaient plus que les autres. Bon, il y avait les chevaliers de l'ordre de Malte, enfin, il y avait les moines, des gens qui devaient faire plus que d'autres. Et même, on se disait, bon, ben, nous, on reste tranquille, eux, ils font plus pour nous. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est plus possible, c'est plus possible. Et je voulais vous le dire, ça, ne pas vouloir reconstituer des îlots comme ça, non. La chance qu'on a aujourd'hui, c'est d'être sur des postes de solitude. Chacun, quand il travaillera, sera sans doute tout seul dans un milieu non chrétien, comme ça. Et Dieu nous donne ça, et dans la perspective de Peggy de Balthazar, c'est magnifique. Voilà. Il n'y a pas à se dire dans les temps anciens, etc. Enfin, nous, nous a donné ça, et c'est peut-être encore plus beau que ce que les autres avaient à vivre. Pourquoi ? C'est là, comme il dit, ce n'est pas un affaissement, c'est une exaltation. Pourquoi ? Parce que chacun doit être davantage enraciné. Davantage. Peggy, dans ce même contexte, parle de la géographie et de la géologie. Au niveau géographique, il y a moins de chrétiens, c'est vrai. Mais du fait de toutes ces eaux, toutes ces incrédulités, toutes ces choses, il faut que chaque chrétien soit géologiquement plus profond. Vous voyez ? Et donc voilà, ça c'est le premier aspect. Rebondir sur le monde moderne, se dire que mystérieusement, c'est une grande chance pour l'Église et pour tout le monde. On dit même, crise des vocations, le clergé, tout ça. Bon, il y a assez de prêtres pour les chrétiens qu'il y a. Et ce qui est demandé, c'est que chaque chrétien soit intégralement. Voilà, soit, alors avant, il y avait les chevaliers qui faisaient tout, les autres rien. Non, tout le monde doit être un chevalier. Oui. Miles Christi, chevalier, chevalière. Enfin, je ne sais pas si on dit chevalière, mais voilà. Voilà, donc je voulais d'abord vous présenter ce premier aspect, voir le monde moderne comme une énorme chance, et se dire que si on va dans des milieux non chrétiens, etc., même pour ceux qui veulent enseigner, moi je suis en enseignement public, ne pas avoir peur de l'enseignement public, c'est une très grande opportunité d'être là, voilà. Pour beaucoup de gens qui ne sont pas en contact avec les chrétiens, c'est des très belles opportunités que la Providence nous donne dans le monde d'aujourd'hui. Deuxième chose, le monde moderne nous oblige aussi à aller plus profondément dans les mystères de la foi. On était à la messe, le Christ rédempteur. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le Christ rédempteur, quand on voit qu'il y a de moins en moins de chrétiens, de moins en moins de baptisés? Qu'est-ce que ça veut dire que l'universalité de la rédemption? Qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, le monde moderne nous oblige à aller plus loin. Oui. Avant, on se disait, bon, là, qui n'est pas baptisé va en enfer, du coup, on baptisait tout le monde. Mais là, on ne peut plus penser comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire que le salut que le Seigneur nous amène? Alors, la deuxième partie, je vous propose, on va lire et on va voir comment Peggy, à partir de son idéal socialiste, va plus profondément dans la figure du Christ et nous montre un Christ qui vraiment est plein d'espérance pour nous. Alors, le premier texte, c'est dans le grand de approfondir les sources de l'espérance universelle du salut. Je vous présente deux textes du Peggy socialiste. Un premier texte, c'est son rêve d'universalité. Et un deuxième, c'est ce qu'il dit des gens qui donnent tout pour réaliser les idéaux. Alors, premier texte, c'est « La cité sans exil ». Si quelqu'un veut lire, c'est presque Proust. Le deuxième paragraphe, c'est une phrase. qui veut tenter? Oui, allez-y. En plus, vous êtes philosophe, donc là, c'est Peggy qui est philosophe. Allez-y.
La cité harmonieuse est pour citoyens tous les vivants qui sont des âmes, tous les vivants animés, parce qu'il n'est pas harmonieux, parce qu'il ne convient pas qu'il y ait des âmes qui soient étrangères, parce qu'il ne convient pas qu'il y ait des vivants animés qui soient des étrangers. Ainsi, tous les hommes de toutes les familles, tous les hommes de toutes les terres qui nous sont lointaines et des terres qui nous sont proches, tous les hommes de tous les métiers, des métiers manuels et des métiers intellectuels, tous les hommes de tous les hameaux, de tous les villages, de tous les bourgs et de toutes les villes, tous les hommes de tous les pays, des pays pauvres, des pays riches, des pays déserts, des pays peuplés, tous les hommes de toutes les races, les Hélènes et les barbares, les Juifs et les Ariens, les Latins, les Germains et les Serbes, tous les hommes de tous les langages, tous les hommes de tous les sentiments, tous les hommes de toutes les cultures, tous les hommes de toutes les vies intérieures, tous les hommes de toutes les croyances, de toutes les religions, de toutes les philosophies, de toutes les vies, tous les hommes de tous les états, tous les hommes de toutes les nations, tous les hommes de toutes les patries sont devenus des citoyens de la cité harmonieuse, parce qu'il ne convient pas qu'il y ait des hommes qui soient des étrangers. Et ainsi tous les animaux sont devenus citoyens de la cité harmonieuse, parce qu'il ne convient pas qu'il y ait des animaux qui soient des étrangers. Aucun vivant animé n'est banni de la cité
harmonieuse. Voilà. Donc là, Peggy a 25 ans. Est-ce que quelqu'un a 25 ans ici? Vous avez moins de 25 ans. Donc Peggy, là, il a 25 ans. Son ami Marcel Baudouin vient de décéder, mais il écrit un livre qui s'appelle « Marcel, premier dialogue de la cité harmonieuse ». Il a dit « Voilà ». Quand on était à la Turne Utopie à l'ENS, rue d'Ulm, on arrivait à ça. Ça, c'était le rêve. Oui. C'est ce qu'il avait en tête. Et disons, c'est un peu pour ça qu'il a consacré sa vie, qu'il a tout donné. Il a 25 ans. En même temps, il écrit une œuvre sur Jeanne d'Arc. Et je voudrais qu'on lise la dédicace. Ça, c'est pas encore l'œuvre, mais c'est la dédicace de l'œuvre. Qui moi d'ailleurs, en la recopiant, ça m'a marqué, parce qu'on voit que Peggy fait déjà de l'écriture inclusive. Moi je suis très agacé, mais c'est une chose personnelle, ça m'agace pas mal. Mais là, quand j'ai vu ça, je me suis dit que maintenant, quand je parlerai à mes collègues, je parlerai à toutes et tous. Voilà. Alors, si quelqu'un veut lire cette dédicace. Donc c'est presque un poème, vous voyez. Donc quand Peggy écrivait des dédicaces, allez-y. Ouais.
L'engagement total, la dédicace de la Jeanne d'Arc de 1897. À toutes celles et à tous ceux qui auront vécu, à toutes celles et à tous ceux qui seront morts, pour tâcher de porter remède au mal universel. En particulier, à toutes celles et à tous ceux qui auront vécu leur vie humaine, à toutes celles et à tous ceux qui seront morts de leur mort humaine, pour tâcher de porter remède au mal universel humain. Parmi eux, à toutes celles et à tous ceux qui auront connu le remède, c'est-à-dire à toutes celles et à tous ceux qui auront vécu leur vie humaine, à toutes celles et à tous ceux qui seront morts de leur mort humaine, pour l'établissement de la République socialiste universelle. Ce poème est dédié. Prennent à présent sa part de la dédicace qui vous leur.
Voilà, Marcel. Donc là, déjà quelque chose du style litanique de pays. Là, 25-26 ans, déjà, il commence ce style. Et puis le fait de répéter des mots, je ne sais plus comment on appelle ça en stylistique, qui seront morts de leur mort humaine. Voilà, il répète des mots comme ça, vraiment pour insister sur les choses. Et là, c'est le moment où il quitte l'Église. Et en particulier, il quitte parce que pour lui, c'est inadmissible que les chrétiens acceptent l'enfer. Il dit « c'est inadmissible ». Comment est-ce qu'on peut avoir été, par exemple, je dis voilà, nous on a partagé un dîner comme ça, c'était très sympathique, et puis me dire qu'à ma mort, moi je serai au ciel, et puis les, enfin moi je serai, enfin ou inversement. Enfin, comment, voilà. Est-ce qu'on peut accepter, est-ce que c'est tolérable, voilà. Oui, comment les chrétiens peuvent accepter ça? C'est intolérable, voilà. Et donc là il dit voilà, Jeanne d'Arc, elle c'est quelqu'un qui n'a pas toléré l'enfer, pas toléré. Elle a donné sa vie et. Et l'enfer, c'est aussi l'enfer sur terre, vous voyez. Et donc là, on en est à ce point-là. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur tout ça, ou on avance?
Ouais. Moi, je me demandais sur l'écriture inclusive. Ouais. Ouais. Pour ne pas forcément en faire un précurseur, ouais. C'est pas plutôt aussi un choix stylistique avec une évocation, comme si ouais, Jeanne ouais. d'Arc, Jeanne la Pucelle, ouais. à toutes celles. Moi je pense que c'est ouais. lié, et donc ne vous forcez pas obligé de parler à toutes Moi je pense que c'est sans doute un peu un choix de sonorité par rapport ouais. à la Pucelle.
Enfin, non, sans doute, sans doute, sans doute, sans doute. Oui, Mais en tout cas, c'est ce qui est beau dans ça, c'est qu'il a tenté de faire la différence sexuelle, je pense. En même temps, il y a l'unité. Dans le texte avant, il y a. Enfin, c'est une chose qui me vient maintenant à l'esprit, mais dans le texte avant, il y avait l'unité des races, des religions et tout. Et ici, il y a l'unité dans la différence sexuelle.
Et même les animaux.
Et même les animaux, oui. Ouais. Aucun, ouais. Tous les animaux, aucun animal n'a le droit d'être.
En fait, une des choses qui me frappe, c'est qu'il dit beaucoup. Enfin, même le texte qu'on a lu sur tout qui est chrétien et sa soldat, lui, il le dit à une époque où on peut encore s'illusionner sur le fait qu'on est à la frontière. Ouais. C'est-à-dire que quand il l'écrit, il y a beaucoup de gens qui ne se sentent pas du tout à la frontière. Et ce qui me frappe, c'est combien ça a pris encore davantage d'actualité maintenant, mais lui, il l'a vu vraiment très tôt. Enfin, il meurt en 14 quand même. Donc, c'est des choses qui me frappent beaucoup. Et puis, moi, j'ai participé à un colloque où on parlait des animaux non humains et des animaux humains. Et donc, de voir qu'il met les animaux dans la cité harmonieuse, là aussi, en fait, ce que je trouve, c'est qu'il voit un certain nombre des questions que nous vivons et il dit quelque chose de ça aussi. Ouais. Et moi, à titre personnel, j'aime bien que la Bible nous promette pas seulement une humanité rassemblée, mais des cieux nouveaux et une terre nouvelle, ouais. et que l'ère messianique soit aussi exprimée par des termes qui impliquent la création. Enfin, c'est quand même un tel déploiement de beauté de la part de Dieu. Enfin, moi, je suis assez touché qu'ils mettent les animaux dans la cité harmonieuse. Je ne suis pas animaliste, voilà. mais je suis content.
il ne convient pas qu'il y ait des animaux. Oui, c'est... À propos du ciel, Peggy disait au ciel, il y aura tout ce qui est beau et qui a réussi sur terre, il sera. Il y aura la cathédrale de Chartres, voilà, il y aura. Et donc, vous voyez, donc Peggy, il a un peu cet idéal d'une totalité, mais il voit aussi que la totalité, on n'y arrive pas automatiquement. Il faut que des gens donnent leur vie. Vous voyez, il faut les deux choses. Hein. Donc, cette totalité où tout le monde est rassemblé comme idéal. Mais on y arrive qu'en se sacrifiant totalement, même en mourant, en donnant sa vie, ceux qui seront morts de leur mort humaine pour l'établissement. Et à ce moment-là, il parle de la République socialiste universelle. Maintenant, ce qui est magnifique, c'est que ces deux éléments, l'universalité et puis le don de soi, vont converger et se réunir dans la figure du Christ. Et l'un des premiers textes qu'il écrit, un peu après cette scène que je vous ai racontée avec Joseph Lotte, où il est dans son livre, il dit « J'ai retrouvé ma foi », l'un des premiers textes qu'il écrit, qui s'appelle « Dialogue de l'histoire et de l'âme charnelle », il médite la passion, selon saint Matthieu, et en particulier, il médite la croix. C'est un dialogue où la muse de l'histoire, Clio, lui dit « Mais vous, enfin, les chrétiens, comment vous faites à vivre ?» À chaque fois que vous commettez un péché, vous êtes les complices de la lance romaine. À chaque fois que vous commettez quelque chose, vous êtes en train de tuer votre maître et seigneur. Comment vous faites à vivre? Et à partir de là, il médite sur le fait que nous sommes tous, en fait, reliés au corps de Jésus. Par notre vie, nous touchons le corps du Christ. Alors je vous propose de lire ce texte qui est très profond sur l'image du Christ crucifié, comme celui qui est en train de donner sa vie, et en même temps, de par son don de la vie, est en train de créer, de constituer cette universalité dont il avait rêvé étant jeune. Alors, l'extrait qu'il a, donc c'est un texte très long, mais je vous ai recopié l'extrait tel qu'il est cité par Balthazar. Voilà. Donc, c'est le découpage de Balthazar lui-même. Quelqu'un veut lire? Ouais, allez-y.
Vous touchez Dieu de partout. Vous atteignez, vous blessez Dieu de partout. Alors, vous ne pouvez pas bouger. Le moindre de vos péchés, vous en faites un complice de la lance romaine. Personnellement, il atteint le corps même de Jésus. Vous êtes lié au corps de Jésus par une technique de mystique telle au corps hostie, au corps agonisant, au corps misérable. Cette liaison incroyable, invraisemblable, inhumaine sans aucun doute, cette liaison inéquilibrée, déséquilibrée, décentrée, désaxée, boiteuse, la seule réelle, cette liaison si profondément, si substantiellement, si centralement chrétienne, la liaison, l'incroyable liaison, la seule réelle, de l'homme et de Dieu, de l'infini et du fini, de l'éternel et du temporel, et aussi de l'esprit et de la matière, de l'esprit et du corps, de l'âme et de la chair, cette incroyable liaison de l'âme charnelle, avec Dieu, en Dieu, avec l'homme, en l'homme. Cette incroyable, la seule réelle liaison du Créateur et de sa créature. Des fils innombrables.
Des fils
innombrables lient tout être à Jésus. Toute âme et tout corps au corps de Jésus. Tout corps et toute âme à l'âme de Jésus. Par la communion, par cette communion. Quel réseau inextricable, mes enfants. Tout est lié à tout. Tout. Tous êtes liés, tous. Et à tout. Tout est lié à tout et à tous. En même temps, tout cela est lié au corps de Jésus.
Alors, c'est un peu compliqué parce qu'il parle de beaucoup de choses. Je vais revenir sur quelques éléments. Vous atteignez, vous blessez Dieu de partout. C'est-à-dire, par le péché, nous touchons Jésus. Les péchés, il les décrit à la fin comme des fils. Oui, des fils. Des fils innombrables lient tout être à Jésus. Par le péché, tous les hommes, chaque fois qu'on regarde quelqu'un, bien cette personne, de par sa vie, est liée comme par des fils au corps de Jésus. Toute âme et tout corps au corps de Jésus. Et c'est la liaison du temporel et de l'éternel, du fini, de l'infini, de l'homme et de Dieu. Donc ici, Peggy nous invite à contempler le Christ qui meurt, et quand il meurt, il est comme au centre, il est sur la croix, hein, et comme on dit, il attire à lui toute l'humanité, tout le monde, et nous sommes liés à lui le fait d'être des créatures, par le mal que nous faisons, qui en lui se transforme en salut. Alors, l'image qui est donnée ici, c'est un peu comme une sorte de toile d'araignée infinie. Le Christ est au centre, et nous sommes tous reliés à lui. Et là, Peggy voit comme se réaliser le rêve de ça, de son, quand il était à Normalsup. Qu'est-ce qu'il rêvait de cette cité harmonieuse universelle? Il voyait aussi qu'il fallait tout donner, il voyait Jeanne d'Arc. Et là, il découvre que Jésus, en donnant tout, en donnant sa vie, eh bien c'est là qu'il constitue la communion et qu'il constitue la cité universelle. Alors, en quoi ça peut être aussi source d'espérance? Eh bien, en ceci, c'est que nous voyons finalement que la superficie des choses. Nous voyons des gens, nous sommes là, on voit des visages, il y a des peuples, il y a plein de choses. Mais profondément, toute personne est reliée au Christ par des fils invisibles. Vous voyez, on a l'impression d'être tous séparés les uns des autres, même entre nous. Enfin, on a des familles, on a des amis, on a des affinités, on a des choses. Au niveau plus profond, nous sommes tous réellement reliés au Christ. Et par le Christ, nous sommes reliés au Père, reliés à Dieu. Vous voyez, et donc la situation actuelle de déchristianisation, ça nous oblige à regarder plus profondément qu'est-ce qui se passe. Ben, quand on célèbre la messe, tout à l'heure on a célébré la messe, ben là nous sommes rattachés au corps hostie, et l'hostie c'est le même, c'est la présence sacramentelle de celui qui est mort sur la croix. En assistant à la messe, on est relié au Christ, et le Christ c'est le même qui est mort sur la croix et qui a ramené à lui toute l'humanité. Donc, autre raison pour voir dans notre époque une chance, c'est que ça nous oblige à aller plus loin et à voir véritablement la dimension surnaturelle. Qu'est-ce qui se passe réellement au niveau surnaturel? Enfin, au niveau naturel, on est ici, voilà, on est. Enfin, ça pourrait être, je sais pas, le Parti communiste, ça pourrait être ailleurs. Enfin, au niveau, là, on est comme ça, mais au niveau surnaturel, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On était à une messe, on a chanté, voilà. On a reçu le corps du Christ, ou non, enfin, on a participé à quelque chose qui nous dépasse totalement, qui est participation à un événement qui a eu lieu quelques heures à l'année 30, et qui, cet événement, crée la communion de tous les hommes, de tous les temps, de tous les lieux. Vous voyez ? Donc ça, c'est magnifique. Donc, ça nous oblige à aller plus loin, à vraiment développer un regard de foi. Mais de là, la figure du Christ, ça nous emmène à un autre aspect de l'espérance. C'est que le Christ est venu, pourquoi est-ce qu'il est venu? Il est venu pour ramener la création au Père. Il n'est pas venu pour lui, pour faire quelque chose. Un peu par, disons, par tristesse divine de voir où est l'humanité, il a donné sa vie. Il n'est pas venu pour prendre que quelques-uns, que les meilleurs, mais pour ramener tout le monde. Et dans cette action, il cherche à plaire au Père. Et maintenant, dans le porche, on va voir les choses du point de vue de Dieu, du point de vue de Dieu le Père. Le Christ nous a sauvés. Mais qu'en est-il de la liberté humaine? Qu'en est-il de la liberté humaine? Et c'est ici que nous rejoignons quelque chose de très nouveau avec Peggy et Balthazar, c'est que la liberté humaine a un prix infini. Le Christ est mort pour nous, mais il faut encore que nous acceptions, il faut encore ratifier. Tout n'est pas fait, hein, tout n'est pas fait. Nous sommes dans le drame. Chacun de nous, nous sommes jusqu'à la fin de nos jours dans le drame. Nous pouvons toujours dire non, nous pouvons toujours échouer. Nous pouvons ne pas nous relever. Nous pouvons choisir les ténèbres éternellement. Et la situation, la nôtre, c'est une situation du drame où rien n'est joué. Et où il est interdit de décréter quelle sera l'issue finale. Nul d'entre nous ne sait s'il est sauvé. Nul d'entre nous ne sait si les personnes qui sont mortes sont sauvées ou pas. Mais tout ce qu'on peut faire, c'est nous-mêmes espérer pour nous, et surtout s'appuyer sur le fait que Dieu est le premier qui espère. Dieu le Père, c'est le premier qui espère dans le salut. Et finalement, l'histoire de l'humanité, c'est quoi? C'est ce moment présent que nous vivons, ce moment présent d'instant en instant qui est un moment présent, où nous sommes dans un drame, le Christ est mort pour nous, et Dieu espère que nous-mêmes collaborions. Alors, c'est ce que Peggy appelle le singulier renversement. Alors, on va lire sous ce texte, le singulier renversement. Si quelqu'un veut le lire, c'est très simple. Allez-y.
Singulier renversement. Singulier retournement, c'est le monde à l'envers. Vertu de l'espérance. Tous les sentiments que nous devons avoir pour Dieu, c'est Dieu qui a commencé de les avoir pour nous. Celui qui aime se met par cela même, par cela seulement, dès par cela dans la dépendance. Celui qui aime tombe dans la servitude de celui qui est aimé. C'est l'habitude, c'est la loi commune, c'est fatal. Celui qui aime tombe, se met sous la servitude, sous un joug de servitude. Il dépend de celui qu'il aime. C'est pourtant cette situation-là, mon enfant, que Dieu s'est faite en nous aimant. Dieu a daigné espérer en nous, puisqu'il a voulu espérer de nous, attendre de nous. Situation misérable, en récompense de quel amour? Gage, rançon de quel amour? Singulière récompense, et qui était dans la condition, dans l'ordre même, dans la nature de cet amour. Il s'est mis dans cette singulière situation, retourné, dans cette misérable situation, que c'est lui qui attend de nous, du plus misérable pécheur. Qui espère du plus misérable pécheur, qui ainsi dépend du plus misérable pécheur. Et nous, voilà où il s'est laissé conduire par son grand amour, voilà où il s'est mis, où il a été mis, où enfin il s'est laissé mettre. Il faut qu'il attende le bon plaisir du pécheur, il s'est mis sur ce pied. Il faut qu'il espère dans le pécheur, en nous. Il faut, c'est insensé, il faut qu'il espère que nous nous sauvions. Il ne peut rien faire sans nous. Il faut qu'il écoute nos fantaisies. Il faut qu'il attende que Monsieur le Pêcheur veuille bien un peu penser à son salut.
Vous voulez commenter quelque chose et un... Alors, il me reste combien de temps? Je ne sais pas, c'est déjà tard ou il est... Quelle heure?
25.
On peut simplement lire, peut-être on lit jusqu'à la fin, tranquillement. Alors, le texte d'après, ça vient du mystère des saints innocents, qui suit le porche. Et les deux livres font comme une sorte de diptyque. Le porche parle surtout de l'espérance. Les saints innocents est dédié à la figure surtout de l'enfance. Dans ce poème, ça c'est magnifique, c'est très très beau, c'est écrit en vers libre comme ça. Il y a l'image de la flotte des prières, cette grande flotte qui monte vers le Père. Et c'est là que Dieu se plaint du Fils, qui a révélé aux hommes comment toucher le Père. Il leur dit, mais enfin c'est pas juste, parce que maintenant que mon Fils leur a enseigné à prier notre Père, comment voulez-vous que je me défende? C'est pas juste. Alors, quelqu'un veut lire, donc ça c'est « On est jugé par le Père ». Oui, allez-y.
Je suis leur Père, dit Dieu, notre Père qui êtes aux cieux. Mon Fils le leur a assez dit que je suis leur Père. Je suis leur juge, mon Fils le leur a dit. Je suis aussi leur père. Je suis surtout leur père. Enfin, je suis leur père. Celui qui est père et surtout père. Notre père qui est aux cieux. Celui qui a été une fois père et ne peut plus être que père. Ils sont les frères de mon fils. Ils sont mes enfants. Je suis leur père. Notre père qui est aux cieux. Mon fils leur a enseigné cette prière. Sic ergo vos orabitis. Vous prierez donc ainsi. Notre Père qui êtes aux cieux. Il a bien su ce qu'il faisait ce jour-là, mon fils qui les aimait tant, qui a vécu parmi eux, qui parlait comme eux, qui vivait comme eux, qui souffrit comme eux, qui mourut comme eux, et qui les aime tant, les ayant connus. Qui a rapporté dans le ciel un certain goût de l'homme, un certain goût de la terre. Notre Père qui êtes aux cieux. Mon fils a très bien su s'y prendre, pour lier le bras de ma justice et pour délier les bras de ma miséricorde. Je ne parle pas de ma colère, qui n'a jamais été que ma justice et quelquefois ma charité. Et à présent, il faut que je les juge comme un père. Pour ce que ça peut juger un père, un homme avait deux fils. Pour ce que c'est capable de juger, un homme avait deux fils. On sait assez comment un père juge. Il y a un exemple connu. On sait assez comment le père a jugé le fils qui est parti et qui est revenu. C'est encore le père qui pleurait le plus.
Vous avez reconnu la parabole ? Ouais, le fils prodigue. Alors, lier les bras de ma justice et délier les bras de ma miséricorde. Alors, ça, c'est une image assez connue de Peggy. Et puis, ces vers. Enfin, pour moi, c'est une des choses les plus belles dans Peggy, c'est ça. C'est ce qu'il dit du fils prodigue. On sait assez comment le père a jugé le fils qui était parti et qui est revenu. C'est encore le père qui pleurait le plus. Alors, ça, je pense que finalement, tout ce que Peggy a à dire, c'est ça. Vous voyez. Finalement, face au fils prodigue, c'est nous. D'avoir le fils prodigue, c'est le Christ qui revient auprès du Père, qui lui montre toute l'humanité, qui est là. Puis le fils prodigue, c'est chacun de nous. Et se dire que quand on revient, c'est le Père qui pleure le plus. Voilà. C'est nous, enfin, on est toujours un peu janséniste, on se dit, voilà, j'ai fait ça de mal. On est toujours en train de ruminer ce qu'on fait de mal, comme ça, on va se confesser, on a un peu cette rumination, comme ça. Peggy dit, la nuit, on fait l'examen de conscience, on rumine, tout ça, etc. Mais en fait, celui qui pleure le plus, c'est le Père. C'est lui qui nous attend. C'est lui qui... Comme il dit, quand on aime, on tombe dans la servitude. Ouais, parce que quand on aime et qu'on voit l'autre qui va mal, ben, on souffre plus que l'autre, presque. On souffre presque plus que celui qui va mal. Et imaginez que Dieu soit ainsi, ça change beaucoup de choses. Je pense vraiment le cœur du message de Peggy, c'est ça. C'est dans les saints innocents, Dieu le Père. C'est le Père qui pleurait le plus. Mais, comme c'est difficile d'arriver au Père, il nous offre Marie comme médiation. Ce qu'on a lu au début, quand Peggy n'arrivait pas à prier notre Père, il va à Chartres, il prie la Vierge. Et là, je vous propose de lire ce moment où Peggy remet ses enfants à la Vierge Marie. C'est une page très connue. C'est dans le porche. Ça exprime ce que Peggy vivra quand il ira à Chartres, mais c'est antérieur. Et là, c'est une situation où il s'imagine comme un bûcheron. Il est dans les bois, il a froid, voilà, il fait tellement froid que dans sa barbe, il y a des glaçons. Voilà. Ses enfants sont à la maison, auprès de sa femme, il fait chaud. Il pense à eux, et en pensant à eux, il se met à pleurer. Vous voyez, un peu comme avant, c'est le père qui pleure le plus, mais lui, c'est le père humain qui pleure d'émotion en pensant à ses enfants quand ils seront grands, quand ils auront de la barbe, tout ça, ça l'émeut énormément. Et puis, il se rappelle un jour où ses enfants étaient malades. Il se rappelle de ce qu'il a fait le jour où ses enfants étaient malades. Et là, il y a une image de la virilité, voilà, qui est assez étonnante. Voilà. On a l'image de la femme qui est un peu celle, figure du refermement sur soi. Et puis, il y a l'audace virile. Vous allez voir, c'est une audace virile assez étonnante. Je vous propose de lire un peu ces vers, comme c'est des vers où il y a un point alors que la phrase n'est pas finie. Bah, que vous lisiez chacun un vers. D'accord ? On va faire comme ça. On va tenter. Et vous allez voir comment, chaque fois qu'il y a une voix nouvelle, il y a quelque chose qui s'ajoute. Et nous sommes dans cette langue de Peggy, du Peggy qui marche, où c'est une langue qui marche comme ça, et à chaque fois, quelque chose qui s'ajoute, et ça grandit, et vous allez voir que la fin est étonnante. D'accord ? Donc, vous, un vers chacun, ça va ? Vous essayez de... Bon, je vais faire le premier. Il pense à ses enfants qu'il a mis particulièrement sous la protection de la Sainte Vierge, un jour qu'ils étaient malades.
Et qu'il avait eu grand peur.
Il pense encore en frémissant à ce jour-là.
Il avait eu si peur.
Pour eux et pour lui. Parce qu'ils étaient malades.
Il en avait tremblé dans sa peau.
À l'idée seulement qu'ils étaient malades.
Il avait bien compris qu'il ne pouvait pas vivre comme cela.
Avec des enfants malades.
et sa femme qui avaient tellement peur.
Si affreusement.
Qu'elle avait le regard fixant dedans et le front barré et qu'elle ne disait plus un mot.
Comme une bête qui a mal, qui se tait.
Car il avait les cœurs serrés.
La gorge étranglée comme une femme qu'on étrangle.
Le cœur dans un étau.
La gorge dans des doigts, dans les mâchoires d'un étau.
Sa femme qui serrait les dents, qui serrait les lèvres, et qui parlait rarement et d'une autre voix.
Une voix qui n'était pas la sienne.
Tant elle avait affreusement peur.
Il ne voulait pas le dire.
Mais lui, par Dieu, c'était un homme. Il n'avait pas peur de parler.
Il avait parfaitement compris que ça ne pouvait pas se passer comme ça.
Ça ne pouvait pas durer.
Comme ça.
Il ne pouvait pas vivre avec des enfants malades.
Alors, il avait fait un coup d'audace. Il en riait encore quand il y pensait.
Il s'en admirait même un peu, et il y avait bien un peu de quoi. Il en frémissait encore.
Il faut dire qu'il avait été joliment hardi, et que c'était un coup hardi.
Et pourtant, tous les chrétiens peuvent en faire autant.
On se demande même pourquoi ils ne le font pas.
Comme on prend trois enfants par terre, et comme on les met tous les trois.
Ensemble, à la fois.
Par amusement, par manière de jeu.
Dans les bras de leur mère et de leur nourrice qui rit.
Et se récrit.
Et parce que lui, on est trop.
Et qu'elle n'aura pas la force de les porter.
Lui, hardi comme un homme.
Il avait pris, par la prière il avait pris.
Il faut que France, il faut que chrétienté continue. Ces trois enfants dans la maladie, dans la misère où ils gisaient. Et tranquillement, il vous les avait mis.
Par la prière, il vous les avait mis.
Tout tranquillement dans les bras de celle qui est chargée de toutes les douleurs du monde.
Et qui a déjà les bras si chargés.
Car le Fils a pris tous les péchés.
Mais la mère a pris toutes les douleurs.
Voilà. Notez le tranquillement. Hein. Tout tranquillement, il vous les avait mis. C'est quelque chose. J'ai payé. Souvent, les choses, quand ça se fait bien, ça se fait tranquillement et organiquement. Organique aussi, c'est un mot. En même temps, il y a cette coup d'audace, cette violence d'aller prier, mais en même temps, c'est tranquillement. Et ça, c'est véritablement l'acte d'espérance, c'est ça. On est dans cette verticalité. On a Dieu le Père, Dieu nous offre la Vierge aussi, les saints sont là. Et l'acte d'espérance, finalement, c'est ce moment où on cesse d'avoir les choses en main et on les remet tranquillement entre les mains du ciel. Qui s'occupera de ces choses. Ça, c'est. Et l'espérance, elle est vraiment dans le moment présent, dans cette verticalité, dans cette remise. Et vraiment, avec Peggy et Balthazar, on laisse en suspens la fin des temps, qui sera sauvée. Par charité, on espère que tout le monde sera sauvé. Hein. L'espérance, c'est une charité aussi. Oui, c'est une charité. On laisse à Dieu. On croit que Dieu est celui qui perd le plus, est le père qui pleure le plus, qui a le plus de peine à perdre les gens. On croit que le Christ est là, il est mort pour tous. On croit que les saints sont là, qui intercèdent. On croit que la Vierge Marie est là. Et on remet tout cela tranquillement. C'est pourquoi la dernière image, une image qu'on retrouve souvent dans le porche et dans les saints innocents, c'est le sommeil. Ceux qui espèrent dorment tranquillement. Et qui sont ceux qui dorment le mieux ? Ben, ce sont les enfants. Parce que l'espérance, c'est aussi, vous voyez, c'est une petite fille, sa petite fille espérance. Les enfants incarnent l'espérance. Pour ceux qui ont des petits frères ou des petits neveux, vous voyez. Regardez les petits enfants, contemplez-les. Voyez comment ils sont fatigués le soir, et puis le matin, comme dit Peggy, ils se lèvent avec des jarrets neufs. Voyez comment, quand on va quelque part, nous, c'est déjà fatigant d'y aller. Eux, ils courent 20 fois, ils font 20 fois. Nous, quand on voit quelqu'un, John a du mal à lui dire bonjour parce que voilà, on est fatigué, on est de mauvaise humeur, et l'enfant dit 20 fois bonjour. Vous voyez, cette vitalité, voilà, elle est là. Pourquoi les enfants ont autant de vitalité ? Bah, parce qu'ils savent dormir. Et dormir, c'est arrêter de ruminer, arrêter de penser, au passé, arrêter de culpabiliser, arrêter de se projeter en l'avenir, de s'inquiéter. Dormir, c'est vraiment comme comme un symbole de l'espérance où on remet. Vous voyez. Un moment, Peggy dit, mais enfin, Laissez-moi vos choses, peut-être que durant la nuit, il se passera... Enfin, je suis quand même capable de faire quelque chose pendant que vous dormez. Et donc, je voudrais terminer par ce... Je trouve aussi une des plus belles images, ici, celle du sommeil. Peut-être deux personnes pour... Non, peut-être on continue comme ça. On va continuer comme on disait jusqu'à maintenant. On continue. On est arrivé à qui ? À vous ? Allez-y. Non, juste une chose de deux. Donc, c'est Dieu qui parle. Enfin, c'est une religieuse, Madame Jarez, mais qui fait parler Dieu. D'accord ? Donc là, c'est comme si c'était Dieu qui parlait.
Mais je vous connais, vous êtes toujours les mêmes.
Vous voulez bien me faire de grands sacrifices, pourvu que vous les choisissiez.
Vous aimez mieux me faire de grands sacrifices, pourvu que ce ne soit pas ce que je vous demande, que de m'en faire des petits que je vous demanderai.
Vous êtes ainsi, je vous connais.
Vous ferez tout pour moi, excepté ce peu d'abandonnement.
Qui est tout pour moi ?
Soyez donc, enfin, soyez comme un homme.
Qui est dans un bateau sur la rivière.
Et qui ne rame pas tout le temps.
Et qui quelquefois se lasse...
Pardon, se laisse aller.
Ah, se laisse aller au fil de l'eau.
Ainsi vous et votre canot. Laissez-vous aller quelquefois au fil du temps.
Laissez-vous entrer bravement.
Sous l'arche du bon de l'eau.
Voilà, donc bonne nuit. Vous voyez comme c'est beau cette image. Vous ferez tout pour moi, excepté ce peu d'abandonnement qui est tout pour moi. Voilà. Se laisser aller sur le canot, c'est voilà, pouvoir dormir, pouvoir remettre les choses, et ça c'est l'espérance. Voyez. C'est remettre parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut faire avancer les choses. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez été un public formidable, moi je voudrais vous applaudir aussi.
Ça donne envie de dire
bêtises. Oui, alors, justement, je vous ai mis deux indications bibliographiques. Donc, nous sommes tous à la frontière, c'est un choix de texte. Balthazar a choisi 30 textes dans l'œuvre en prose. Le Porche, voilà, c'est très beau, le Porche, le Dessert de la deuxième vertu. Balthazar a écrit 100 pages sur Peggy. Bon, je me suis mis, auto-publicité, j'ai mis ma thèse. Non, puis je vous ai mis aussi la conférence que j'ai donnée, conférence de Carême, elle est sur KTO. Voilà, là aussi ça parle un peu de la vie, ça parle des sacrements. C'est un peu la question de comment Peggy nous parle de sacrements alors que lui-même n'y a pas accès. Ça va un peu dans la même ligne de ce que je vous disais, le monde des plus chrétiens, ben comment aller plus profondément dans les mystères du salut. Ben Peggy ne participe pas au sacrement, et grâce à ça, mystérieusement, il va très loin dans la compréhension des sacrements. Voilà, ça c'était la conférence de Carême. Le Porche. Ouais. Merci. Voilà, Peggy, c'est un auteur qui, en général, ne touche pas les masses, mais atteint des personnes, vous voyez. Il atteint, on est brûlé vif, voilà. Mais voilà, c'est ce type d'auteur comme ça. Et c'est aussi un auteur qui a besoin d'être lu à haute voix. Donc, quand il est lu à haute voix, on comprend plus. Souvent, les gens disent, ils se répètent. Mais en fait, ça, j'ai découvert, dès le temps où Peggy était vivant, moi, j'ai trouvé des recensions de gens qui disaient « Peggy se répète voilà. ». Et lui-même dit un jour à un de ses amis « Pour qui sait lire dans l'œuvre du maître ?» C'est-à-dire, il parle de lui-même à la troisième personne. « Il n'y a pas une seule répétition. » Elle a dit ça. C'est dans un texte qu'il publie dans le bulletin de Joseph Lotte, cet ami qui était à Coutances. Donc cet ami avait un petit bulletin qui s'appelait le bulletin des professeurs catholiques de l'université. Et Peggy envoyait en avant-première là-bas ces textes, avant qu'ils ne soient publiés dans les Quais de la Quinzaine. Il écrit, une fois il écrit Ève, c'est un poème qui est aussi long que la Divine Comédie, voilà, sauf qu'il l'a écrit en 4 mois. 14 000 vers, 14 000 alexandrins, c'est énorme. Et il écrit, il prépare cette publication avec un commentaire de cette œuvre dans ce bulletin de Joseph Lotte. Et c'est là qu'il y a une note en bas de page. Il dit, pour qui sait lire vraiment, il n'y a pas une seule répétition dans l'œuvre du maître, parce qu'il parle de lui à la troisième personne. Et voilà. Donc moi, j'ai beaucoup aimé Peggy, donc je suis très heureux de vous en parler. Mais je crois que c'est vraiment quelqu'un qui a vu beaucoup de choses et qui nous aide à ne pas avoir peur de la situation qu'on vit. Voilà. Ne pas avoir peur. Lui, il a été pas mal récupéré sous Vichy. Par exemple, vous voyez, quand on avait dit travail, famille, patrie, on dit bah oui, c'est Peggy, il parle du travail, il parle de la famille, il parle de la patrie. En un sens, c'est vrai. Mais chez lui, il n'y avait rien d'une nostalgie. Même l'Action française, ils ont essayé de le récupérer, mais lui, il admirait beaucoup Saint-Louis, mais pour autant, on est en République, et voilà, il faut... notre royaume de France, ouais. Et puis une chose, dans ce que vous disiez, qu'il a vu la situation actuelle, parce que lui, il a passé sa vie en dehors des milieux catholiques. Et en fait, il y avait peut-être peu de catholiques à l'époque qui étaient en dehors des milieux catholiques, et lui étant dehors... En fait, il a passé sa vie sans catholique. Et donc, il se rendait bien compte qu'on pouvait très bien vivre en France sans catholique. Enfin, le catholicisme était une réalité étrangère qu'il a combattue. Ses amis étaient juifs, il y avait des protestants. Puis quand il revient à l'église, personne ne l'accueille. Enfin, où est l'église enfin, où... lui-même a vécu cette situation. Il a vécu cette situation d'être seul. Comme dit, rien n'est aussi beau qu'un poste de solitude. Il a vécu ça. Il était seul croyant dans son milieu, dans sa famille. Mais il a réussi à voir que ça c'est beau, et que Dieu le Père est content de nous. Il est content de nous quand on les voit, quand on fait tout ça, qu'on essaye de tenir les choses, d'aller de l'avant. Et puis il nous offre Chartres, il nous offre la Vierge Marie, il nous offre plein de choses. Je pense qu'il y a plein de choses pour un peu remonter la pente du désespoir qui nous atteint, ou de l'appareil, de tout ce qui nous prend. Enfin, lui, il appelle ça le vieillissement. Le mot qu'il emploie, c'est le vieillissement. Vous voyez, quand à chaque fois qu'on commence à tourner en rond, quand on apparaît, c'est le péché, pour lui, le péché, c'est pas... le péché, c'est pas aller lire des magazines avec des obscénités. C'est pas d'abord ça. C'est le vieillissement intérieur, c'est l'habitude, c'est quand on... Voilà, c'est... Et voilà, il y a la petite fille Espérance qui est là et qui nous fait avancer. Voilà.
Je dis juste un petit mot, mais en fait, mon quatrième chapitre de thèse, l'exergue, d'innombrables fils, lit tout être à Jésus, mais moi je vais plus loin que Balthazar, à l'être de Jésus, à l'être Jésus.
Et ça, l'être Jésus.
Génial. À l'être. Voilà. Et...